Alors, chers amis, la société Louis Appia, bénéficiant de l'hospitalité de l'espace Madeleine, se réjouit de vous proposer ce soir la parole à Valérie.
C'est vrai qu'il y avait deux titres. Le premier, c'était Louis Appia, l'homme de foi. Et le second, vous pouvez voir sur l'affiche qui est à l'entrée, c'est Louis Appia en chrétien engagé. Et vous verrez donc que j'ai plus travaillé sur en chrétien engagé. Alors, lorsqu'un jeune médecin né à Hanau, dans le Kurhessen, c'est-à-dire l'électorat de Hesse, en 1818, et pratiquant la médecine, son art, à Francfort, une ville libre, décide de s'installer à Genève, dans le canton de Genève, et plus précisément à Jussy, où un groupe de citoyens vient de créer une structure originale, une société du médecin qui offre un logement spacieux à un jeune médecin, pour autant que celui-ci s'installe dans la commune et s'engage à y pratiquer des tarifs raisonnables. Donc lorsque ce jeune médecin nommé Louis Appia s'installe donc à Jussy en 1849, il ne restera pas très longtemps et s'installera en ville, ce jeune médecin ignore évidemment qu'il participera à la création d'une institution qui fêtera l'année prochaine ses 160 ans d'existence, évidemment, la Croix-Rouge. Donc ce jeune médecin amène dans ses bagages, on pourrait dire déjà son ambition, mais et surtout ses racines protestantes qui vont aisément s'implanter dans le terreau protestant genevois, alors très fertile au milieu du XIXe siècle, fort en plus de son réseau familial. Donc, afin de vous présenter justement l'engagement chrétien du docteur Louis Appia, engagement qui l'influencera tout au long de sa vie, de l'exercice de sa profession, et qui sera à l'origine de son engagement philanthropique et humanitaire, j'ai décidé de ne pas retracer toute la vie de Louis Appia, mais de me concentrer sur sa période genevoise, qui dure quand même pratiquement 50 ans, puisque une fois qu'il a choisi Genève, il y reste et il meurt en 1898. Donc, pourquoi se limiter à cette période, même si elle dure déjà 50 ans ? C'est parce que la cité de Calvin, c'est la cité de Calvin qui va lui permettre d'agir selon ses convictions, car c'est justement dans les réseaux genevois que se cristallise pour lui ce qu'on nomme alors la charité chrétienne, qui réunit la religion, la philanthropie et l'humanitaire. Donc je vais tout d'abord évoquer assez brièvement la corrélation justement entre les réseaux familiaux de Louis Appia et les réseaux protestants locaux. Et on verra justement le dynamisme du réseau évangélique genevois et qui permettra à Louis Appia de témoigner sa foi. Et nous verrons justement ce qu'implique être un chrétien évangélique au XIXe siècle à Genève. Et on verra comment la foi de Louis Appia irrigue son action, sa réflexion, son parcours de vie. Et ensuite, on regardera plutôt les réseaux philanthropiques dans lesquels il s'insère et il agit, et quelle est justement la part de l'engagement chrétien dans cette démarche philanthropique. Et ensuite, sur justement la motivation chrétienne et philanthropique des hommes qui contribuent à organiser ce qu'à l'époque on appelait la charité chrétienne pour les soldats et ce qu'on nomme aujourd'hui l'humanitaire. Donc, comme je l'ai déjà dit, lorsque ce jeune médecin s'installe à Genève, il prend avec lui ses racines protestantes et il va s'insérer dans ses réseaux protestants locaux, fort, on dira, de son réseau familial. En effet, son père, qui est issu d'une famille protestante des vallées vaudoises, piémontaises, le pasteur Paul Appia, a étudié la théologie à Genève, il a été consacré pasteur et il a eu son premier poste dans la campagne genevoise. Sa mère, Caroline née de Velay, bien qu'originaire d'une famille d'Yverdon, a aussi de la famille à Genève. En outre, deux de ses sœurs se sont installées à Genève par leur mariage. Marie a épousé le pasteur Jacques Claparède, qui est chapelain de l'hôpital et qui jouera un grand rôle pour Louis Appia. Et son autre sœur, Cécile, a épousé le peintre Gabriel Boutier de Beaumont, donc issu d'une riche famille genevoise qui s'installe également dans la campagne à Collonges, donc en France voisine. Et il a aussi une troisième sœur, Pauline, qui elle s'est mariée en 1836 à Francfort, donc avant qu'il vienne à Genève. Elle a épousé le pasteur Louis Valette. Louis Valette, qui a passé justement son enfance à Genève et sa jeunesse également dans la campagne genevoise. Beaucoup d'attaches familiales le relient à Genève, mais également un réseau amical qu'il a pu tisser lorsque Louis Appia a fréquenté l'Académie à Genève de 36 à 38, où il a obtenu le baccalauréat S lettres et S sciences. Dès son arrivée, le jeune médecin rejoint l'Église évangélique libre. Église évangélique qui est issue d'un véritable bouillonnement religieux qui s'est produit à Genève et également ailleurs dans le monde durant la première moitié du XIXe siècle. C'est évidemment le réveil. On dirait la cité de Calvin, le réveil qui encourage une foi personnelle, mystique, vécue dans son fort intérieur, a profondément rebattu la carte religieuse en introduisant plusieurs communautés et églises. À la Restauration, on a par exemple l'église du Bourg-de-Four qui va devenir l'église de la Pélisserie, on a l'église du pasteur Amibos, on a l'église du Témoignage du pasteur Malan. En 31, on a une seconde vague du réveil qui se produit surtout dans la haute société genevoise autour des pasteurs Gossen, du pasteur et professeur de théologie Jean-Henri Merle d'Aubigné, du pasteur Galland. Et ensemble, ils vont créer la société évangélique. Et d'ailleurs, je salue M. Widmer, qui est le président actuel de la société évangélique. À son origine, la société évangélique n'est pas véritablement une église, mais assez rapidement, elle va fonder une école de théologie et également un lieu de culte, l'oratoire. Là, il y a des ruptures, il y a des destitutions de pasteurs, mais bon, l'Église, on dira l'Église nationale, ne rompt pas entièrement avec les revivalistes, puisqu'il y a une branche au sein de l'Église nationale qui est sensible au réveil, et leurs adeptes sont appelés orthodoxes. Et de nombreux fidèles, revivalistes, évangéliques, vont fréquenter autant des assemblées des différentes églises ou futures églises donc évangéliques et des services de l'Église nationale. Et juste pour finir avec cette Église évangélique libre, parce que c'est quand même l'endroit où Louis Appia va constituer tout son réseau, c'est pour des raisons politiques que la société évangélique va, c'est pour des raisons politiques que l'Église évangélique libre va devoir constituer en tant qu'Église. Parce que à Genève, dans les années 40, il y a deux révolutions. Une première révolution en 42 et surtout la fameuse révolution radicale de 1846. Et cette révolution radicale instaure le pluralisme religieux. Et elle contraint l'Église à modifier sa constitution. Elle doit créer une nouvelle constitution et elle va passer d'une église clergée à une église peuple. Ce qui est totalement contraire au principe même du réveil qui considère que l'institution religieuse doit être dans le cadre d'une église de professants, c'est-à-dire une église dont les fidèles ont vécu une conversion spontanée à l'âge adulte qu'on nomme une nouvelle naissance. Et de ce fait, le baptême, pour les revivalistes, n'est pas suffisant pour faire partie justement de cette communauté des fidèles. Et c'est la raison pour laquelle, en 1848, est fondée une église de professants qui va regrouper les différentes personnes de tendance évangélique. Et ce sera justement l'église évangélique libre. Donc c'est dans ce contexte que vous voyez très bouillonnant que Louis Appiah s'implante dans ce milieu évangélique. On l'a vu et on va le voir encore, il a de nombreuses, on dira, interconnexions avec les évangéliques, mais dans son milieu familial et amical, il y a également un certain nombre de pasteurs ou de professeurs de théologie libéraux, à l'instar de ces deux parrains. Ces deux parrains sont le professeur de dogmatique Jean-Jacques Caton-Chenevière, qui était, on dira certainement, un des plus farouches adversaires du réveil. Il était d'ailleurs proche des radicaux. Il est très très virulent contre les revivalistes et il les accuse d'ailleurs de faire le jeu des catholiques. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne veux pas vous parler ce soir, mais au XIXe siècle à Genève, la lutte contre les catholiques, les luttes à l'intérieur du protestantisme sont excessivement virulentes. Et son second baptême, c'est également un pasteur libéral, et en plus, c'est l'oncle de son épouse, c'est le pasteur Louis Ferrière. Donc voilà, il est évangélique, mais il y a quand même des entrées avec les libéraux. Alors, comme justement je vous parlais de l'interconnexion entre ces réseaux familiaux et les réseaux évangéliques, on peut citer comme exemple sa belle famille, les Lasserre Lombard. En effet, Louis Appiah épouse le 17 novembre 1853 Anne-Caroline Lasserre. Et il y a son portrait, je crois, sur ce panneau. Vous l'avez peut-être vu. Une jeune épouse, elle est beaucoup plus jeune que lui, et le couple s'installe donc au cœur de la vieille ville, au bourg de Four. Et deux personnalités de sa belle famille illustrent parfaitement ces interconnexions et ont dû marquer profondément Louis Appiah. D'une part, sa belle-mère, Élisabeth dite Pernette, la serre Lombard. Ils sont de la même génération. Elle a 4 ans de plus que lui, et comme je vous ai dit, il a choisi une épouse très jeune. Et le salon de Pernette Lasserre est un véritable creuset évangélique grâce aux réunions d'édification destinées aux jeunes gens qui sont organisées et présidées par un pasteur évangélique, le pasteur Émile de Maulle. Et Pernette Lasserre est du reste l'époux de l'avocat Henri Lasserre, un des piliers de l'Église évangélique libre et de la société évangélique. Autre personnalité de sa belle famille, qui l'influence beaucoup, c'est l'oncle d'Anna Appiah Lasserre, Alexandre Lombard. Alexandre Lombard est un fidèle de sa sœur, du salon de sa sœur, et il a d'ailleurs été profondément marqué par la prédication du pasteur de Maulle au point de refaire l'éducation religieuse qu'il avait fait, et c'est là, c'est un petit peu amusant, il l'avait fait avec le pasteur Louis Ferrière, le second parrain de Louis Appiah. Et donc, Alexandre Lombard est un membre de la société évangélique, de l'église évangélique libre, où se trouve également son frère Henri, qui est un des anciens de l'église évangélique libre, donc un autre oncle d'Anna Appiah. Et surtout, Alexandre Lombard est l'une des figures de proue du milieu évangélique genevois, créateur d'œuvres religieuses et philanthropiques, locales, mais à vocation internationale. Et c'est justement cette vocation internationale qui est une des particularités des réseaux évangéliques, que ce soit à Genève ou ailleurs. Puisque ces réseaux ne sont pas uniquement locaux, ils s'internationalisent, à l'image justement de l'Alliance évangélique qui a été fondée en 1846 à Londres et qui tente justement de fédérer et de rassembler les protestants membres d'une église nationale ou d'une église libre. Et cette internationalisation qui commence justement dans le milieu évangélique et qui va se poursuivre dans le milieu philanthropique et qui sera quand même au cœur de l'action de l'UAPIA avec ensuite la Croix-Rouge, cette internationalisation fait que dans la seconde moitié du XIXe siècle, Genève devient un des centres européens où ont justement lieu ces congrès. En petit exemple, avec assez précoce, on dira avec l'Alliance évangélique, en 1861, après Londres, après Paris, après Berlin, la grande conférence générale de l'Alliance évangélique a lieu à Genève. Et d'ailleurs, qui est le secrétaire de l'Alliance, de la section genevoise de l'Alliance évangélique? Ce n'est pas Louis Appia, mais c'est Henri Dunant. Qui est donc secrétaire de l'Alliance évangélique et qui sera également secrétaire de l'Union chrétienne des jeunes gens, Union chrétienne des jeunes gens, donc de la section genevoise, mais Union chrétienne des jeunes gens qui va également s'internationaliser. Tous ces mouvements d'internationalisation se font avant la Croix-Rouge, donc on voit où justement Louis Appia et les autres fondateurs tirent leur inspiration. Et c'est d'ailleurs sur les bancs de l'oratoire qu'il semblerait que Louis Appia a rencontré pour la première fois Henri Dunant, semble-t-il. Louis Appia est évidemment un observateur de cette, comme je viens de le dire, de cette internationalisation des organisations évangéliques. À ce moment-là, il s'implique dans des œuvres religieuses locales. Par exemple, la Société biblique, qui distribue des Bibles, et également donc, la Société évangélique, où il devient un des membres adjoints au département d'évangélisation à l'intérieur. Et justement, l'implication de Louis Appia dans les œuvres religieuses peuvent être donc analysées comme un témoignage de sa propre foi. Et ce témoignage, cette évangélisation, sont deux éléments indispensables justement pour les églises de réveil, car ces églises vont encourager les fidèles à créer des œuvres religieuses pures, mais également, donc comme les sociétés bibliques, comme les écoles du dimanche, comme les réunions d'édification, comme j'en parlais tout à l'heure pour la réunion dans le salon de Pernette Lombard. Mais les églises du réveil vont encourager à créer des œuvres philanthropiques, et c'est ce qui va créer une vie associative extrêmement dense. Donc, on le voit, pour Appia, le témoignage de sa foi ne se limite pas uniquement à sa vie spirituelle. Elle est véritablement, sa foi est véritablement le fondement de son action et de sa réflexion. De même, sa famille est un foyer religieux intense, comme l'atteste son fils Adolphe, le célèbre metteur en scène. Vous avez peut-être entendu parler de ce metteur en scène, Adolphe Appia, qui avait collaboré avec Wagner à Bayreuth. Il parle de sa mère en disant « Ma mère élevait ses enfants pour le ciel et non pour la terre. » De même, l'action philanthropique et humanitaire de l'UUAPIA ne peut pas être perçue sans la signification religieuse qui lui donne. De même, certains de ses écrits, sont le témoignage de sa foi fervente. Alors, il a écrit beaucoup de choses, mais je vais vous parler brièvement de deux publications que l'UUAPIA a faites, parce qu'elles sont très emblématiques, justement, de tout ce courant de philanthropie chrétienne. Il a écrit une petite brochure qui s'appelle « Le pardon à la dernière heure », qui relate la rédemption sur son lit de mort d'un jeune officier dévasté par les conséquences de l'alcool et du tabac. La seconde brochure s'intitule « Noël à l'ambulance », qui met en scène une mission humanitaire et religieuse en Bulgarie en 1877, durant laquelle des caisses de vivres, de vêtements, mais aussi des Nouveaux Testaments ont été apportés à l'occasion d'une fête de Noël offerte aux blessés. Alors, ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que ces deux brochures montrent bien l'association entre l'édification religieuse et la moralisation. C'est-à-dire que dans la première, la moralisation passe par une hygiène de vie adéquate via l'anti-alcoolisme, tandis que dans la seconde brochure, l'édification religieuse et la moralisation se concrétisent par la bienfaisance et la charité chrétienne. L'association de ces thèmes n'est pas une exception dans la littérature édifiante du XIXe siècle, que ce soit sous la plume de pasteurs ou de laïcs. De nombreuses brochures d'édification religieuse sont publiées, mêlant édification religieuse, moralisation philanthropie. Alors, comme je l'ai dit, et on va le voir plus précisément maintenant, les milieux évangéliques sont une pépinière d'œuvres d'évangélisation et d'œuvres philanthropiques, puisque, vous l'avez compris, pour leurs promoteurs, on ne peut pas dissocier évangélisation et philanthropie. Pour eux, à cette époque-là, le prosélytisme religieux et l'évangélisation de la société doivent contribuer à réformer en profondeur la société. Au XIXe siècle, il y a un thème qui revient constamment, c'est la fameuse question sociale. Cette question sociale taraude le XIXe siècle et pour les philanthropes évangélique, on trouve justement dans le christianisme la solution à cette question sociale, puisqu'il faut mettre sur place une réforme qui soit en même temps religieuse, morale, donc réforme religieuse, réforme morale, et une réforme sociale. Et ainsi, on pourra réformer en profondeur la société. Et Genève, justement, dans la seconde moitié du XIXe siècle, voit naître plusieurs mouvements associatifs qui réunissent cet idéal religieux et cette ambition philanthropique. On a la protection du dimanche chrétien, mais on a également tout un vaste réseau de lutte contre la littérature immorale ou encore contre l'alcoolisme, avec la Croix Bleue, vous le savez, qui a été créée à Genève par le pasteur Rochat. À tel point que Genève a souvent été considérée au XIXe siècle comme la capitale de l'éthique. Et au niveau local, les organisations progressent d'une manière fulgurante. Mais en plus, ces petites associations, certaines, se développent au niveau international, et les philanthropes genevois très rapidement s'insèrent dans les réseaux internationaux qui sont en train de se mettre en place. Ils fréquentent les congrès internationaux, ils en organisent également à Genève. Et en plus, les philanthropes genevois évangéliques du XIXe siècle ne se limitent finalement pas à participer uniquement au congrès lié d'une certaine manière au réseau évangélique. parce qu'il y a d'autres congrès qui sont organisés dans le cadre des expositions universelles qui n'ont pas forcément une tendance religieuse, eh ben, ils participent à ces congrès également. Donc, c'est clair que la cause de tout cela, c'est le paupérisme hein, qui est issu de l'industrie, de l'industrialisation galopante du XIXe siècle. Mais une des causes à cette explosion en fait, de l'organisation philanthropique au XIXe siècle, ce n'est pas uniquement la lutte contre le paupérisme, c'est surtout un glissement conceptuel de la charité. On passe de la caritas chrétienne, qui met en avant les notions d'amour du prochain, d'amour divin, qui invite à soulager son prochain de ses souffrances, et on passe à la notion de philanthropie qui veut s'attaquer aux racines des maux qui ravagent la société et qui implique une large réflexion et une organisation structurelle. Louis Appien est emblématique de ce mouvement général puisqu'il s'insère dans ce tissu associatif local foisonnant et qu'il s'intègre également dans les réseaux internationaux, et pas uniquement ceux de la Croix-Rouge. Lui-même fréquente des congrès universels qui ont lieu justement, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre des expositions universelles. Et en plus, il fait partie de la Société genevoise d'utilité publique, société dont le président n'est autre que Gustave Moynier. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette société que sera fondée la Croix-Rouge. Alors vous allez me dire, bon, je parle d'internationalisation, puis vous me parlez d'une société genevoise, mais voilà, la Société genevoise d'utilité publique, comme on va le voir maintenant, elle n'est pas uniquement genevoise, elle est vraiment au cœur de tous les réseaux de la philanthropie chrétienne évangélique. Deux mots dessus. Pour se comprendre comment elle fonctionne comme un centre d'études et de recherche. Chaque année, elle réfléchit sur trois thèmes, instruction populaire, paupérisme et industrie nationale. Et en plus, donc c'est une société savante, si vous voulez. Et en plus, c'est une société d'émulation et un organe d'incitation à l'action philanthropique, puisqu'elle va soutenir la fondation de nombreuses associations sans forcément d'investir dans leur gestion. Alors, faire partie de la Société genevoise d'utilité publique, comme l'Appien, l'un des membres, va forcément donner à ses membres la conscience d'appartenir à un réseau local foisonnant. Alors, la Société genevoise d'utilité publique n'est pas seulement genevoise, puisque cette section genevoise, cette Société genevoise, on peut dire une section, est rattachée à la Société suisse d'utilité publique. Donc là, on voit que Louis Appien, en faisant partie de la Société genevoise d'utilité publique, a déjà une perspective supplémentaire au niveau de comparaison, des éléments de comparaison au niveau suisse, d'autant plus que on dira que les fiers protestants de la Société genevoise d'utilité publique qui ont une vie, on dira, locale extrêmement riche, vont devoir, on dira, se confronter aux autres réalités des autres sections cantonales, à d'autres protestants, mais aussi à des catholiques. Parce que c'est justement ça la particularité de la société suisse d'utilité publique qui a son siège à Zurich, c'est qu'elle va réunir, elle va en quelque sorte fédérer, même si ce n'est pas le bon terme, parce que juridiquement parlant, les sociétés sont autonomes, mais on dira qu'elle va fédérer des sociétés qui, selon les cantons, sont soit protestantes, soit catholiques. Au XIXe siècle, c'est une véritable révolution, parce que le climat est très excessivement tendu, et plus les années passent, plus c'est tendu, parce que à la fin du XIXe siècle, il y a le fameux Kulturkampf, c'est-à-dire le combat pour la civilisation qui ravage les relations entre les catholiques et les protestants. Et en plus, la section genevoise, la société genevoise de la société donc pour l'utilité publique, va donner aux philanthropes genevois la première occasion de se confronter à d'autres philanthropes dans le cadre des congrès internationaux. Parce que, justement, notamment Gustave Moynier, donc le président dont je parlais, un des futurs donc, fondateurs de la Croix-Rouge, la première fois où il va parler à une réunion internationale, un congrès international, c'est dans le cadre de la Société d'utilité publique à Paris, en 1855. Pour Appia, la Société genevoise d'utilité publique est aussi l'occasion de mettre à profit son expertise médicale pour la communauté philanthropique, ce qu'il fera ensuite dans le cadre de la Croix-Rouge. Il va présenter, dans le cadre de cette société en 1863, un rapport, je cite, « sur les facilités offertes aux indigents dans la fréquentation de quelques établissements de bains en Suisse et dans les contrées voisines ». Il présentera également un rapport sur l'hygiène. J'en parlerai brièvement dans un instant. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir de justement de cette société genevoise d'utilité publique, UAPIA va intégrer un certain nombre de comités. Et dans tous ces comités, parce que l'explosion donc est fulgurante au XIXe siècle, on retrouve dans les comités les mêmes personnes avec des liens familiaux, etc. Donc on a une sorte d'enchevêtrement entre les œuvres philanthropiques et religieuses. Parce que pour les promoteurs de ces œuvres, c'est un peu comme en Pulse, comme les pièces dans Pulse, pour réformer en profondeur la société. Il participe notamment, je vais vous citer quelques autres sociétés dont il fait partie, il participe notamment à l'œuvre des Salles du Dimanche, qui a été fondée par son oncle, par alliance, Alexandre Lombard, et qui met à la disposition des ouvriers des lieux où passer les après-midi des soirées dominicales. J'ai vu sur un des panneaux, voilà, sur ce panneau-là, vous avez un petit extrait du journal de Genève qui cite une conférence qu'il a donnée dans le cadre d'une de ces salles du dimanche. Il participe également, enfin ponctuellement, à la Société pour l'observation du dimanche, qui a été aussi fondée par son oncle. Et surtout, l'UAPIA est très actif dans la lutte contre l'alcoolisme. Il avait écrit cette petite brochure dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que l'alcoolisme, justement, on a un croisement entre les idéaux chrétiens et les idéaux philanthropiques, parce qu'au XIXe siècle, l'alcoolisme n'est pas uniquement considéré comme un problème médical, c'est avant tout un problème moral qui ne peut être résolu que par la moralisation et l'évangélisation. Aujourd'hui on dirait des alcooliques, mais à l'époque on disait des buveurs. L'idéal donc de la croix bleue n'est absolument pas exempt de prosélytisme religieux, puisque le but de ses promoteurs est de ramener les anciens buveurs sur les bancs des églises. Autre domaine où on retrouve cet idéal évangélique de moralisation de la société, où l'UAPIA a pu exercer son expertise médicale, c'est l'hygiène, et plus précisément l'hygiène sociale. Parce que là aussi, dans ce domaine, pour les philanthropes du XIXe siècle, la solution au problème de l'hygiène et de l'hygiène sociale n'est pas uniquement médicale, et elle est liée à la résolution de la question sociale et à l'évangélisation de la société. Et l'UAPIA va organiser de nombreux cours, des conférences familières, également dans les cadres d'associations populaires, sur le thème de l'hygiène et plus précisément sur le thème de l'hygiène de l'enfance. Autre exemple qui peut paraître assez surprenant de ce type d'association où la place implique, c'est la Société protectrice des animaux qui a été fondée par les mêmes philanthropes évangéliques que les œuvres précédentes. Et il est également très actif dans la Société d'entraide de bienfaisance et d'éducation destinée à la communauté allemande, le Deutscher Hilfsverein, donc de Genève, où il trouve du reste une partie de sa clientèle. Alors on l'en comprend aisément à ce tableau, Louis Appia étant chrétien, qui s'est fortement engagé, impliqué dans le champ philanthropique. Dès lors, son action humanitaire au sein de la Croix-Rouge, mais je ne vais pas déborder sur ta conférence, Roger, son action au sein de la Croix-Rouge doit être perçue comme la continuité de son idéal religieux et philanthropique, puisque les fondements de son action humanitaire se nourrissent de sa foi et de son expérience personnelle. Expérience personnelle, puisque Louis Appia est en médecin, et en médecin qui a exercé sur les champs de bataille. Et dans sa correspondance, on peut lire que cette expérience de médecin sur les champs de bataille est pour lui une expérience religieuse. Je vais vous citer pour cela, pour vous montrer cela, une lettre qu'il a envoyée du front de la guerre du Schleswig, donc en avril 1864. La guerre est pour lui, je cite, « un terrible fléau de Dieu, même si c'est un fléau dont l'homme porte une bonne part de la responsabilité. » Fin de la citation. Et une autre citation que je vais vous faire, vous allez comprendre justement, il dit que la guerre est perçue comme une grande et périlleuse épreuve pour la foi. C'est ainsi que c'est dans l'action humanitaire, dans les secours portés aux blessés, que Louis Appia trouve une solution à sa détresse face à la guerre assez douteuse. Mais, comme il le dit dans son ouvrage intitulé « Le chirurgien à l'ambulance » qu'il publie en 59, Louis Appia revendique une certaine humilité chrétienne face aux blessés et il cite pour cela la fameuse phrase du célèbre chirurgien de la Renaissance Ambroise Paré, « Je le pensais, Dieu le guérit ». Donc je le soignais, Dieu le guérit. Et c'est dans cette perspective que l'action humanitaire est la continuité du dévouement chrétien. Et ceci, on le voit également dans une autre lettre qu'il écrit justement devant la ville de Sonderburg, dans le Holstein, donc c'est actuellement au Danemark. Il dit, il se félicite des bienfaits que répand partout et jusque sur les champs de bataille le dévouement simple, silencieux, modeste, mais efficace, que donne seul l'Évangile. Fin de citation. Donc on peut dire que l'esprit chrétien est à l'origine pour lui à Pia, mais aussi pour ses collègues des associations dont il fait partie, de toute action philanthropique et humanitaire. Une dernière citation avant de conclure, c'est une citation de l'ouvrage qu'il écrira avec Gustave Moynier, « La guerre et la charité », qu'il publie ensemble en 1867. Donc je cite, « Nous le déclarons franchement, nous voyons dans le sentiment chrétien le mobile à la fois le plus énergique et le plus sage de toute entreprise philanthropique. » Ce qu'il vient d'évoquer, le rôle de l'honneur et du patriotisme dans les sentiments de la philanthropie. Et donc je continue la citation. « Nous considérons cette suprême force comme le meilleur moyen pour équilibrer l'homme et pour soutenir son dévouement, au moment où toutes ses facultés sont sollicitées à la fois. Nous y discernons enfin la vraie expression de la solidarité internationale qui doit unir tous les peuples sur le terrain où nous nous sommes placés. » Fin de citation. Donc, on le comprend bien, pour lui, Appia et les fondateurs de la Croix-Rouge, l'esprit chrétien est donc l'essence de l'action philanthropique. et selon les termes qu'on utilise aujourd'hui, humanitaire. Puisque cet esprit permet à l'homme de donner le meilleur de lui-même, de se vouer au prochain, et est même en élément fondateur et fédérateur de la solidarité internationale. Donc en conclusion, je dirais que l'ambition jeune médecin, arrivée à Genève en 1849, s'est complètement intégrée dans la ville élue. Il a non seulement épousé une jeune fille de très bonne famille, il a acquis la bourgeoisie de Genève en 1860, mais il a surtout intégré les valeurs de la bourgeoisie genevoise conservatrice. Le portrait que j'ai esquissé de Louis Appiah nous montre un homme profondément chrétien, fidèle aux racines qu'il a reçues et dont la foi irrigue son engagement dans la cité. Ses motivations dans les champs philanthropiques et humanitaires sont justifiées par une lecture chrétienne du monde. Ainsi, Appiah est un représentant, parmi d'autres, de la philanthropie chrétienne qui est une des réponses données à la question sociale qui traverse le XIXe siècle. Il a, on l'a vu, réussi très rapidement à évoluer dans le milieu réformateur évangélique genevois qui a su s'internationaliser en s'imbriquant dans les réseaux européens et américains de la réforme sociale. Je vous remercie.